bon, dans les 10 endroits.
Si vous voulez bien, on va reprendre avec toujours le quart d'heure de retard. Mais on finit par l'avoir cumulatif, le quart d'heure. Hein. Donc, si vous voulez bien vous installer. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'un ou l'autre relancer un peu. Lancer le débat.
C'est les questions qui l'entourent.
Lancer le débat. Les questions peuvent déjà et d'ores et déjà être posées. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Alors, complément d'information, débat lancé.
Alors, le débat. Il y a le monsieur devant et après à Baptiste. Et après, il y a le monsieur qui fait le micro. Non, il a levé la main parce que.
Oui, c'est une question relative à la loi, mais pas à la loi LOPCI 2. Ça serait une question par rapport, je ne sais pas si vous pouvez me répondre, par rapport au règlement d'urbanisme et enfin, dans le code d'urbanisme, quelle est la valeur légale des habitats légers, yourtes et autres. Est-ce que c'est considéré comme un habitat? Est-ce qu'on peut faire un dépôt de permis de construire, etc.
On dit pas que c'est une yourte, on dit que c'est une maison en ossature bois, ce qui n'est pas faux. À partir de ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de dire que ils ne sont pas censés savoir au départ de quoi va être fait autour de l'ossature bois, et on peut déposer le permis de construire sur la base d'une ossature bois. C'est légal et sur différents sites. De personnes qui justement ont fait le choix de vivre en yourte. Après, le maire peut titiller aussi, mais c'est totalement légal de pouvoir prétendre à une maison ossature bois sous forme de yourte.
Je les donne simplement à titre d'exemple ce soir pour mettre des images sur ce dont on va parler. Parce que voilà, les petits dessins, ça vaut mieux qu'un grand discours. Ensuite, j'aimerais faire une précision qui me je trouve ça vraiment très important aussi, c'est les termes qu'on utilise, et en particulier deux termes qui sont extrêmement différents, celui de ce qu'on appelle quelque chose de légitime et quelque chose de légal. Calout a utilisé le terme de légitime tout à l'heure à plein de reprises en parlant de la loi pour quelque chose qui est légal. Ça m'a écorché les oreilles. À l'inverse, vous parliez tout à l'heure, à l'instant plutôt, de quelque chose de légal. Bon là, c'est vrai, vous avez raison, le verbe de construire est quelque chose de légal concernant la yourte. Il faut vraiment se poser la question si on s'intéresse à la légalité, c'est quelque chose de légal ou quelque chose de légitime. Et je continue en disant que... J'ouvre le débat, j'espère qu'on me répondra là-dessus. Moi, je considère que le permis de construire est une mauvaise idée pour la yourte. C'est quelque chose d'assez incompatible en soi, parce que le permis de construire, c'est un outil urbanistique, administratif, qui a été conçu et qui est utilisé pour contrôler l'urbanisation, pour éviter qu'il y ait des constructions qui se passent n'importe où, n'importe comment. Il faut des permis pour ça, sur des zones constructibles. La yourte, c'est quelque chose qui peut se démonter facilement, qui se déplace, qui par essence n'est pas à demeure sur un terrain, donc qui n'a pas vocation à être contrôlée comme une habitation en dur. Voilà, pour moi, ça n'a pas trop de sens de demander un permis de construire pour une yourte. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait pour se rassurer, et ils le font très bien en décrivant une construction en ossature bois. Je parle quand même de ce pourquoi j'ai mis la main, c'est-à-dire la façon dont le PLU ou les textes juridiques plus généralement considèrent les habitats légers, pour répondre à Julien. Aujourd'hui, dans la loi, l'habitat léger ou mobile, il y a une case qui a été faite pour lui, c'est l'habitat de loisirs, l'habitat temporaire pour les vacances. On définit donc par habitat de loisir soit une tente de camping, il y a quelque chose qui est vraiment léger et dans lequel il n'y a pas d'équipement, c'est-à-dire pas d'électricité, pas d'eau, pas de cuisine, pas de sanitaire. Ça, c'est une tente de camping et il y a sa place dans la loi. C'est limité à 3 mois sur un même emplacement, quel que soit le nombre de centimètres que l'on déplace, là, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est-à-dire, c'est une interprétation. Donc, 3 mois réduit à 15 jours dans des zones protégées type Natura 2000 ou autre, monument historique. S'il y a des équipements dedans, ça devient une habitation légère de loisirs, c'est-à-dire un mobilhome ou une caravane. Non, mobilhome, je dirais. Caravane, c'est un véhicule, c'est autre chose. Tente de camping, habitation légère de loisirs. Mais dans les deux cas, c'est une utilisation temporaire de loisirs. Si on envisage d'habiter dans ce genre de choses de façon permanente, pour avoir son vrai habitat dedans, et bien là, il n'y a plus de cases du tout sur les textes juridiques, que ce soit le PLU, les permis de construire ou autre chose. La notion d'habitat léger et d'habitat permanent, c'est quelque chose qui est vraiment incompatible dans les textes français aujourd'hui. À partir de là, je crois que c'est assez clair. Il ne faut pas chercher quelque chose de légal, mais simplement quelque chose de légitime. Il faut être conscient que quand on parle conscient et jusqu'à fier, enfin, c'est mon cas en ce moment et j'en suis fier, que quand on habite dans un habitat comme ça, on se met hors la loi, volontairement, consciemment, l'ambition de changer cette loi, quoi. La dénoncer en tout cas. Mais pour répondre à la question de la légalité, un habitat léger aujourd'hui, il n'est légal que dans une utilisation temporaire et de loisirs. Sinon. Excusez-moi de cette intervention beaucoup trop longue. Ça veut dire temps mort technique, c'est pour une intervention de moins d'une minute. Le fait qu'on soit propriétaire ne change rien à l'affaire. On peut être propriétaire de son terrain ou pas, ça ne donne pas plus de droits, ni de devoirs, ni moins de droits.
Ok. Alors, il y avait... Attends, non, pas Virginie, la dame à côté. Tout à l'heure, vous avez voulu intervenir.
Oui, je voulais juste répondre tout à l'heure, monsieur Baptiste, c'est ça, à l'intervention qu'il avait faite entre le légal et le légitime. Je suis tout à fait d'accord. Je suis aussi tout à fait d'accord avec monsieur quand il dit quand une loi n'est pas bonne, soyons hors la loi. Maintenant, tout n'est pas tout blanc ni tout noir. Et à un moment donné, en demandant aussi des yurts avec un permis de construire, c'est aussi une manière de légitimer ce genre d'habitat-là. On le fait chacun à sa manière, je pense. Et voilà, je veux dire, après, je ne suis pas forcément pour cette loi, absolument pas, sinon je ne serais pas là. Mais à un moment donné, on peut aussi passer par ces moyens-là de faire accepter ces formes d'habitat dans le paysage. Ça ne viendra pas du jour au lendemain, mais c'est une manière de le faire. Voilà, je voulais juste répondre.
Merci, bonsoir. J'habite Najac depuis peu. Je suis au milieu des bois, dans un petit endroit charmant, où j'ai eu le bonheur d'acquérir un petit lopin de terre avec une roulotte dessus. J'ai l'intention d'y poser une yourte pour y installer ma fille et son petit ami. J'aurai sûrement, comme un rêve d'enfance, une cabane dans un arbre. Il y a déjà une caravane. Je pense que je les cumule, en fait. Ce que je voulais dire par rapport à la légitimité et à la légalité. Pour l'instant, je n'ai rien demandé à personne. J'essaye de résister sans demander la permission à je ne sais quel chef ou Dieu. Si je fais cette intervention, c'est pour exhorter mes concitoyens à donner un peu plus de place à leurs désirs, à leurs envies, à laisser de la place à une certaine liberté qui permettra peut-être de déboucher sur des choses un peu plus légères, style leur habitat ou leur consommation. À partir de du moment où il y a une conscience qui est née, est-ce qu'une certaine radicalité doit s'imposer ? Alors, soit on est d'accord avec la loi, soit on la refuse. Si on la refuse, est-ce que la désobéissance civile doit régner ? Est-ce que on doit se comporter avec le doigt sur la couture du pantalon ou attendre que les bleus viennent, que nos copains déboulent et qu'il y ait une petite confrontation qui permette, de temps en temps, de remuer un peu les sangs et les neurones.
Question est posée.
Oui, moi
alors juste, ça n'était pas en rapport avec le sujet de ce soir. C'était... En plus, je cumule. Non, c'est juste quand j'entends, quand une loi n'est pas bonne, je ne l'applique pas ou j'y résiste. Je suis résistante sur plein de choses, mais il faut se méfier de cette globalité, parce qu'il y a aussi une loi qui s'appelle l'IVG, et il y a plein de gens qui sont contre cette loi et qui interviennent dans des maternités parce qu'ils la trouvent pas bonne. Donc d'une façon, voilà, un peu générale, il faut peut-être pas globaliser comme ça. Sinon, la désobéissance civile, les actions, enfin, voilà, c'est tout.
Mademoiselle, je rejoins un petit peu ce que la dame dit, au point de, est-ce que le sortir du cadre de la loi pour servir ses intérêts, connaître réellement quel est le cadre de la loi et qu'est-ce qui nous permet, je pense qu'on s'éloigne un peu en fait du débat et de moi, de pourquoi je suis venue, quel est le cadre de la loi qui nous permet de rester dans notre choix de vie sans se rebeller pour se rebeller si réellement on nous prive de nos libertés, et où est-ce qu'elles restent nos libertés là actuellement, s'il s'agit de déclarer une maison parce que c'est la seule solution qui nous reste, de demander un permis de construire parce qu'on a des enfants qu'on ne peut pas loger et qui sont dans le froid, ou est-ce que c'est juste rester dans un cadre pour rester dans un cadre, voilà. Moi j'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu du débat de pourquoi j'étais venue, à savoir s'il y a des gens qui ont réellement des informations sur cette loi et dans quel cas on peut rester dans un cadre, ou réellement si la seule solution c'est sortir du cadre, voilà.
On veut nous faire passer dans des couloirs, enfin bon, je sais pas, mais ça touche à des fondamentaux qui sont l'alimentation, le droit à un abri, la circulation et de pouvoir s'exprimer en public, le visage dégagé. Ce que je veux dire par là, c'est que la loi aussi, pour moi, elle représente ces quatre fondamentaux. Et elle touche à ça. Alors moi, si j'ai plus ma liberté pour m'alimenter, c'est-à-dire son petit jardin, si j'ai pas ma liberté pour me loger, si j'ai pas ma liberté pour me déplacer ou pour parler, qu'est-ce qui me reste dans mon métier d'homme? Qu'est-ce que je transmets à mes enfants?
La loi n'avait pas pu t'empêcher de... Je sais pas,
D'abord, il y a Baptiste et après, à toi.
Non, je n'ai pas vu.
Pour répondre à Pierre en face, Kadhafi, il était dans ce qu'on appelle une situation de tolérance, c'est-à-dire qu'on l'a laissé faire. Et en fait, il faut bien être conscient de... c'était très temporaire, c'est vrai. Il faut bien être conscient du fait que la situation de tolérance, c'est la situation quand même la plus fréquente de très loin aujourd'hui. Il y a des expulsions, Tom et Léa, on en parle beaucoup, Gus et Céline, un peu moins, mais ça va venir. Il y a des expulsions un peu partout en France.
Oui. Eux, ils ont été tolérés, justement. Et Gus et Céline, ils ont été tolérés, ils s'en sont sortis.
Ils auraient été tolérés à temps, ils ne le sont plus là. Mais il y a quand même...
Non, ils le sont maintenant, à nouveau. Ils ont gagné le truc au tribunal. Ils n'ont pas gagné, c'est-à-dire que le juge, il a fait « Ok, c'est bon, on passe à autre chose ». Après, je sais pas...
Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'affole un petit peu devant les cas d'expulsion. Il y a quand même beaucoup plus de cas de tolérance. Où les gens sont là et ça ne gêne personne, les élus, tout ça, c'est bon.
C'est l'avenir qui inquiète, justement. Est-ce que ça ne va pas s'aggraver,
les expulsions?
C'est vrai.
Ok, alors il y avait... Alors, Mickaël disait c'est l'avenir qui inquiète. C'est l'avenir qui inquiète, parce qu'on propose, on permet à travers cela, ça, quelque part, dans le temps. Il y avait la dame, là, qui avait levé la main.
Il ne faut pas être anti-légaliste, enfin anti-légal tout le temps, parce que la loi c'est ce qui peut t'empêcher de te déplacer, etc. Mais c'est aussi celle qui te permet de te déplacer sans... qui te permet de pouvoir... La loi, mais les deux, hein, celle qui permet, puis celle qui... c'est un juste milieu, effectivement, il faut trouver peut-être les formes qu'on pourrait proposer, nous aussi.
Dans un régime sarkozyste,
au présent. On a quand même des voies, enfin, tu peux parler, tu peux t'exprimer, tu as pu te déplacer, tu as pu venir ici, Et pour la chambre, il ne faut pas exagérer non plus. C'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est proposer des choses. Parce qu'on essaie de se protéger, se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer des choses plutôt ? Plutôt que de se protéger, etc. Enfin, on est suffisamment nombreux, enfin, au bout d'un certain temps, avec certains collectifs, enfin, un certain nombre de collectifs, et proposer quelque chose.
Alors,
de façon. Parce que là, c'est chacun qui. Chacun défend sa yourte, son machin, etc. C'est bon, ce qui est légitime et peut-être pas tout à fait légal. Mais est-ce qu'on pourrait pas envisager plus.
Bah, si vous voulez vivre en yourte, moi je peux en fabriquer, hein. Non, mais tous les gens qui vivent en maison, tu vois, si tu veux te battre, aller faire ton jardin, et tu peux changer de vie et du coup rentrer dans le.
S'il vous plaît, on respecte le tour de parole parce qu'il y a un monsieur là-bas, après il y a Diane, et après moi j'aimerais intervenir, je lève le.
Moi j'aimerais savoir, parce que bon, il y a ceux qui choisissent de vivre dans un habitat léger. Qui ont les moyens de faire autre chose, c'est leur choix. C'est déjà un problème, pourquoi ils n'ont pas le droit. Après, il y a ceux qui ont besoin. Parce que c'est vrai que si tu essayes de trouver un logement en ville. Alors, je voudrais savoir comment s'inscrit la loi LOPSI et donc toutes ces histoires de logement précaire par rapport au droit au logement opposable. Et je ne comprends pas très bien comment quelqu'un qui dit ah ben moi, je vais me faire ma petite yourte dans un coin où ça emmerde personne. Eh ben, on le vire et on le remet dans la rue parce qu'il n'a pas les moyens de se mettre ailleurs. Est-ce que quelqu'un a des éléments par rapport à ça? Est-ce que ce n'est pas un élément qui pourrait permettre à des gens de rester dans leur yourte ou dans leur caravane plutôt que de se retrouver
comme ça? Aujourd'hui, oui, effectivement, la loi LOPSI, elle n'est pas encore appliquée. Aujourd'hui, si on déloge, on reloge. C'est le droit au logement. Quoi. Ouais. Et la loi LOPSI, elle prévoit quand elle sera appliquée de ne pas reloger. Voilà.
Donc, c'est la rue, quoi.
Ouais. Attends, Diane, moi j'aimerais juste vraiment, avant qu'on aborde ça, j'aimerais répondre parce qu'il y a quelques éléments. Si tu me permets, je.
Ouais, mais alors juste, du coup, je vais répondre sur les lois. Est-ce qu'il y a des lois qui sont bonnes et tout? Enfin, je pense que c'est un débat de fond. Mais quand tu dis que Virgile, il a pu se dépasser, il a pu venir s'exprimer. Sauf que de plus en plus, quand même, enfin, je veux dire, et c'est pas nouveau, enfin, je veux dire, on essaye de restreindre nos libertés. Et moi, je suis désolée, en tant que fille d'immigrée, enfin, à partir du moment où une partie de la population n'a pas le droit de circuler comme elle veut, je me sens pas tout à fait libre. Et je veux dire, ça, je pense que du coup, là, en tout cas, au niveau de la loi, enfin, je suis désolée, mais je pense qu'il y a peu de lois qui sont protectrices, mais qui sont plutôt restrictives à l'heure actuelle. Voilà.
Moi, j'aimerais juste prendre un moment de prise de recul. C'est qu'effectivement, en éducation civique, quand on était tout petit, on nous apprenait qu'on a des droits et des devoirs. Et qu'effectivement, ces droits et nos devoirs, ils sont encadrés par des lois. Donc effectivement, il y a des lois qui nous permettent des droits et d'autres qui nous demandent des devoirs. À partir de là, l'idée, c'est de se dire qu'effectivement, tout ça, à un moment donné, ça crée des failles et qu'on peut agir quoi, là-dessus. Ces failles, on en a déjà parlé tout à l'heure par rapport au tronc de terre A, etc., sur l'habitat, si la loi LOPSI est appliquée. Donc ça, c'est un premier point déjà. C'est-à-dire qu'on ne va pas stigmatiser les lois, bonnes ou pas bonnes, avec des valeurs personnelles sur oui, l'IVG, non l'IVG. Enfin, les lois, elles sont ce qu'elles sont. Celles qui sont appliquées, de toute façon, elles sont appliquées. Donc, à un moment donné, il faut chercher les failles. Donc, ne perdons pas d'énergie à des trucs qui, je pense, on ne pourrait que débattre et débattre encore et encore. La deuxième chose, c'est proposer des choses. Effectivement, proposer des choses. À quelle échelle? La notion de gouvernance, c'est-à-dire comment on prend les décisions. Aujourd'hui, nous, citoyens, je ne sais pas, moi, personnellement, je ne me sens pas du tout représenté par mes élus, quoi, au niveau Sénat et au niveau... Assemblée nationale, on est d'accord là-dessus. Même au niveau départemental, je me sens vraiment peu représenté. Donc, ok, on propose des choses, mais à cette échelle-là, on voit bien que c'est biaisé d'entrée de jeu. Par contre, proposer des choses là, localement, là, c'est-à-dire retrouver du sens dans nos rapports humains, dans nos façons de prendre des décisions, dans nos façons de s'organiser. Tout à l'heure, j'entendais parler UDAMAP. J'entendais parler système échange local, d'avoir quand on était dehors, on discutait. Et mais c'est ça, c'est des formes d'organisation. Mais mettons notre énergie là, dans ce qui nous préoccupe là, à nous, en direct, c'est-à-dire nos premiers besoins qui sont de manger, je reprends ce que disait Virgile, de manger, de se loger et de circuler, et puis aussi de se soigner. Ça, déjà, c'est des besoins fondamentaux. Et comment, localement, à notre échelle d'humaine de, à côté de nous, comment déjà ça, là, on essaie de s'organiser ensemble, quoi. L'énergie, elle est là, quoi, parce qu'après, c'est sûr que si on commence à... Après, on, par quoi on commence, quoi. Fait, ouais.
Le moment ou pas de, de restituer un petit peu les travaux de cet après-midi. Justement, on a fait un appel à une réunion cet après-midi pour travailler sur la loi LOPSI 2 et enfin, voilà, élargir sur les lois sécuritaires, les lois qui entravent nos libertés. Et donc, du coup, on a constitué ce collectif cet après-midi, voilà, avec pas mal de discussions. Et donc, je vais être brève, mais voilà, ceux et celles qui sont intéressés pour venir nous rejoindre, ils peuvent venir voir Cécile. On a créé, on a commencé à recenser nos coordonnées et tout. Et en gros, il y a quatre axes qui se dessinent. Il y a un groupe qui va travailler sur les questions juridiques, justement, notamment pour être prêt sur... bien calé juridiquement, comme quoi, hein, je m'intéresse à la loi quand même, du coup qu'on s'y intéresse, pour aussi être prêt pour en cas de référé devant le tribunal administratif, quand on est sous le cas de l'expulsion sous 48 heures, de pouvoir déposer rapidement, avoir les outils pour pouvoir déposer rapidement un référé devant le tribunal administratif. Il y a une commission aussi qui est sur tout ce qui est communication et sensibilisation, notamment aussi en direction des élus, des maires, voilà. Il y a une commission qui va être plus une commission d'action, c'est-à-dire de mobilisation aussi, de solidarité en cas d'expulsion, mais aussi en cas de d'autres entraves à nos libertés, parce que ce n'est pas que sur l'habitat léger. On a décidé que le collectif, ce serait sur toutes les lois répressives, enfin sur tout ce qui s'appelle les lois sécuritaires, tout ce qui est arsenal répressif et de contrôle, et plus une commission de convergence des luttes. C'est-à-dire qu'on soit aussi solidaire des autres luttes qui sont menées, notamment les gaz de schiste, mais d'autres localement, sur lesquelles on peut aussi être force de solidarité sur des manifestations organisées par les autres. Voilà. Donc du coup, en fait, il y a une prochaine réunion qui va avoir lieu le 10 mars à 14h30 à la Salvetta Perales, à la ferme des Troncs. Voilà, je lance le truc. Donc ce sera la deuxième réunion du collectif. Et sinon, on va organiser une soupe populaire le samedi 12 mars au marché de Rodez à partir de 8h du matin. Voilà, il y aura un premier lancement à 8h et puis à 10h une deuxième vague pour ceux qui viennent d'un peu plus loin. Voilà, et puis ensuite le 10, il y aura d'autres choses qui seront organisées pour à venir. Voilà, mais du coup, je lance le truc. Voilà, on a décidé de s'organiser. Alors, en respectant effectivement les différentes stratégies, bois, légaliste, pas légaliste et tout. Mais voilà, on était, je sais pas combien on était une cinquantaine cet après-midi. Du coup, on est ouvert dans un respect d'empathie et de respect des stratégies. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir donner vos coordonnées à Cécile après. Voilà.
Madame.
J'arrive pas à comprendre l'intérêt de la loi si c'est pour mettre dehors des gens qui avaient réussi, dans le cas d'une précarité, à se construire un petit abri quelque part. J'arrive pas à comprendre pourquoi on veut les remettre dans la rue.
Mais parce que pourquoi on les... Non, mais c'est une très très bonne question. Non, mais il faudrait se mettre à la place du coup de ceux qui font ça. Parce que humainement parlant, effectivement, c'est très difficile à comprendre. J'avoue que l'idée même de vous apporter des bonnes réponses me fait peur.
C'est sûr.
Alors attendez, il y a 50 mecs qui se lèvent. Qui a levé la main premier?
Il n'y a pas qui veulent répondre.
C'est la dame en premier. Mais d'abord, honneur aux dames.
Alors, pour moi, la première réponse, c'est que on est en train de taper sur tout ce qui peut représenter une autonomie de son habitat, une autonomie de son alimentation, une autonomie de son énergie. Et voilà, déjà c'est pas mal. Et évidemment que quand on fait sa yourte soi-même ou qu'on l'a fait faire par un réseau existant, ben Bouygues et compagnie, on ne prenne pas bien les poches. Les TVA, on peut même arriver à les zapper, quoi qu'il y en a qui ont des statuts d'auto-entrepreneurs et tout ce qu'ils ont créé récemment, ils ont encore bien arnaqué compétences potentielles de gens, mais bon, là, ce n'est pas mon domaine. Enfin, c'est surtout l'autonomie qui sont en train de viser. Et je pense aussi qu'à travers les yurts, parce qu'il y avait une dame sur la Côte d'Azur, je ne sais plus trop où, qui habite en yurt depuis 15 ans, qui est très installée, le réseau EDF, le réseau Internet, elle a tous les réseaux. Alors, elle, même M. Sarkozy est allé la voir. Apparemment, elle ne craint absolument rien, parce qu'on essaye aussi de toucher par là un réseau un peu militant qui commence à casser les pompons pour tout le système financier et tout ce qu'ils veulent bien mettre en place. Oui. Voilà, c'est avant tout, je pense ça. En tout cas, moi, j'ai vécu dans un camion, j'avais un camion et je vivais dedans. À une période, j'ai dû vivre avec mes enfants dedans pendant un mois au mois de juin. Donc le papa est tout de suite intervenu, tribunaux et tout. Là, au mois de juillet, les tribunaux, ils étaient tous en alerte. Et je suis passée au tribunal au mois de juillet parce que mes pauvres enfants, dans un camion au mois de juin, ils étaient dans un état pire que s'ils avaient été sous les ponts. Quoi. C'était vraiment à se demander. J'étais vraiment une femme indigne et tout ça. Et en alertant le conseil général et tout le pompon, j'ai réussi au bout de deux mois à avoir un appartement avec un maire qui a bien voulu zapper l'éducation nationale pour avoir un appartement au-dessus de l'école. Enfin, il faut voir, et je suis quelqu'un qui connaissait le système social puisque je travaillais dans un centre social, donc je savais comment ça se passait. Je suis une personne qui a des ressources, qui ne cesse pas à battre comme ça, et j'ai trouvé que c'était vraiment dur et qu'on nous mettait tout le paquet pour nous enterrer un petit peu plus. Donc je peux même pas imaginer, enfin si j'imagine qu'est-ce que ça peut être pour des gens en difficulté psychologique et compagnie, on fait tout pour bien encrasser les gens qui veulent essayer de se démerder. J'ai même une fois trouvé un boulot à mi-temps à un moment où le mec des ACDIC m'a répondu qu'on m'aiderait pas dans ce domaine-là parce qu'il y avait un patron, il voulait pas trop s'investir, mais bon, moi, il me filait du boulot, ça m'arrangeait pour mes gamins. Et le mec de la NPE, j'ai dit, alors, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est même monsieur Carbonel, un responsable un petit peu plus chef que les autres, qui m'a dit, bah, vous attendez dans 6 mois, vous serez au RMI et on vous trouvera des solutions. Voilà, parce que tout le tcha-tcha qu'on nous fait, c'est bien gentil, mais quand on se retrouve dans des situations bien galères, quoi, comme les trois quarts des gens, hein, séparation de couple, c'est galère autant pour les mecs que pour les nanas, mais du coup, on fait rien, si ce n'est que bien pour nous emmerder, puis comme ça, avec tous ces statuts de réinsertion, eh ben, on continue tous à bien bosser en dessous que le SMIC, parce qu'après, on nous crée des contrats uniques d'insertion, maintenant, c'est le dernier qui est sorti, avec 90% d'allègement de charges patronales, et que si on ne mettait pas là-dedans à tout bout de champ, donc pendant un an, vous trouvez du boulot, deux ans, parce que bon, on a vu, c'est 75% le contrat, comment il s'appelle celui-là, Avenir, contrat Avenir à court terme, là. Donc c'est 75% d'allègement des charges, la deuxième année c'est 50, la troisième c'est 25. En général on vous garde 2 ans, après bon, bah, de toute façon on change, on en prend un autre. Toi tu retournes au chômage pendant un an, tu coûtes trop cher, hein. Là il faut te payer 10 euros de l'heure, oh mon Dieu, les pauvres. Et puis on passe sa vie et on arrive à 45 ans où quand on a gagné le SMIC, maintenant ça devient un bon salaire, et puis que l'esclavage par les contrats de réinsertion, vive la réinsertion. Eh bien, la réinsertion, pour moi, c'est l'esclavage moderne. Voilà. Bon, j'en ai fini, je sors.
Il y avait ce monsieur, et après, je crois qu'il y a ce monsieur dernier, c'est ça.
Oui, ce que je voulais exprimer, elle vient de le faire brillamment et avec beaucoup de passion. Et je vais le formuler avec deux, trois mots différents que j'ai pas trop entendu ce soir. Par rapport à, on a beaucoup parlé d'habitat léger, précaire, et c'est vrai qu'il faut faire attention aux amalgames. Moi, le terme qui me convient le mieux, c'est habitat choisi. Il rejoint aussi une notion qui me paraît importante, c'est celle de dignité. Il me semble qu'on est un certain nombre, moi j'habite pas dans une yourte, mais je vise à une certaine autonomie dans une maison et modeste, on va dire, avec un budget, un petit budget. Et on est un certain nombre peut-être à donner le mauvais exemple et à faire des choix de vie qui sont en train de faire tache d'huile. Et effectivement, je pense que ça commence à inquiéter en haut lieu parce que tous ces gens-là échappent aux copains, entre autres de Sarkozy, Édouard Leclerc et compagnie. Donc, je me demande, alors j'aimerais vraiment connaître les raisons qui ont prédestiné à cette loi, et notamment sur ces points-là. Mais je pressens, et c'est quelqu'un qui m'a éclairé là-dessus, comme ça, au hasard d'une conversation, que on est en train de taper sur toute initiative originale, digne et tout à fait viable, et en plus écologique, parce qu'il y a quand même, par rapport à ces habitats, il y a une réversibilité quasi totale de ce type d'habitat, contrairement à beaucoup d'habitats dits écologiques, de baraques à 200 mètres carrés, en bois, machin, exotique, et tout le bazar. Il me semble que quand même il y a une sacrée différence en termes d'écologie entre ces deux types d'habitats. D'un côté, on les encourage au nom du développement durable. De l'autre, on vise à les détruire, à les décourager, alors que c'est peut-être la solution du 21e siècle.
Par rapport à une question que j'ai entendue il y a un moment sur jusqu'où faut-il s'inquiéter pour cette loi, moi, ce qui me paraît absolument effrayant, c'est, et vous avez insisté d'ailleurs dessus plusieurs fois, c'est des termes clés qui sont dedans, c'est-à-dire tranquillité, sécurité, péril immédiat. On rêve. Parce que ça veut dire qu'accorder à des élus le pouvoir de décider de ce qui finalement ressort de la vie collective locale, c'est bien là que la loi me paraît quand même. Oui, d'accord. Enfin, je veux dire, en charge de l'administration, de s'occuper de dynamique locale. Enfin, on sait qu'il n'y a pas plus subjectif que la sécurité. Et peut-être que le seul paramètre un peu objectif qu'il y aurait dans la loi, enfin, je sais parce que j'ai travaillé dessus avec des chercheurs belges et français, c'est la question de salubrité, qui, même scientifiquement, ne sont pas si objectifs que ça. Mais ça, on peut encore un peu les coder. Mais entre la salubrité et la sécurité, effectivement, on voit la marge quoi, qui est assez effrayante.
Et le problème aussi, c'est un gros problème, ça justement, enfin, ça a déjà été soulevé, on y revient, c'est qu'il y a des élections, il y a des élus. Je vois sur les OGM déjà en 2001 ou 2002, je me souviens, il y avait 14 maires du Calvados qui avaient déclaré leur commune sans OGM et le préfet avait cassé l'arrêt, enfin les décisions municipales. Là, il y a 2 ans ou 3 ans, le Gers s'était déclaré au département sans OGM, le préfet a cassé. Et en fait, c'est comme si on vote, il y a une soi-disant démocratie, il y a des campagnes, on va mettre notre bulletin dans l'urne pour finalement dire au maire, mais en fait, vous ne valez rien, vous êtes élu, mais vous ne représentez rien, parce qu'au-dessus de vous, il y a le préfet, là, celui-là, il n'est pas élu, ou c'est l'État qui le place,
Bon, bah, je crois qu'on a tout dit.
Peut-être alors à ce moment-là, il faudrait que nous allions voir les maires, parce que au niveau politique, c'est encore les seuls qui, pour moi, peuvent être fiables, parce qu'on vit avec eux concrètement sur le terrain. Déjà, même conseiller général, faut voir. Mais maire, j'ai encore une possibilité d'avoir confiance. À ce moment-là, il faut travailler avec les maires. Et puis là, on va dire, l'intérêt général, vous savez, celui des finances, eh ben, il est là en bas, parce que c'est quand même nous hein, qu'on file la monnaie là-haut. Parce qu'eux, ils font les barons là-haut. Mais c'est nous qu'on bosse pour qu'ils aient les vies qu'ils ont. Ce qui nous coûte cher quand même, hein, autant que la monarchie, hein, c'est le même fonctionnement. Hein. Donc peut-être que si nous, avec les maires, on dit avec les maires, maire d'au préfet, c'est plus facile quand on a un maire pour dire maire d'au préfet, parce que déjà, des fois, la police, elle est différente. Enfin, je sais, on a eu des... On est monté pour Tarnac avec le maire de Tarnac et tout le conseil municipal. C'est vrai que quand même, en face de nous, ça parle... Bon, ils avaient mis leur banderole de blanc-rouge, hein, comme ça on voyait de loin qu'ils étaient maires aussi. Parce que évidemment, nous, on n'était pas maires. Mais du coup, ça a quand même une autre sensibilité, peut-être. Enfin, alors, je ne sais pas, là, hein, je lance les...
Alors, il y a 3 interventions. Une là, une avec Yann et avec M. Lugard.
Je voulais dire, les maires, il ne faut peut-être pas trop rêver. C'est vrai qu'il y en a qui apparemment aident certaines personnes qui sont un peu dans l'optique, qui ne les emmerdent pas, qui trouvent des endroits pour qu'ils mettent leur yurte et tout ça. J'ai l'impression que c'est des résistants, quoi. On a l'impression qu'on est en 45, les mecs qui cachent les types qui sont dans l'illégalité. Et un peu comme le... RESF s'occupe des gamins qui risquent de se faire reconduire à la frontière alors qu'ils sont à l'école. Enfin bon, c'est vrai qu'on est dans un régime vraiment bizarre où, toi qui disais, on a droit, mais j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de droits. Tu regardes les lois, elles sont toutes contre. Les seules qui sont pour, c'est pour aller creuser sur le Larzac pour retrouver du gaz de schiste. Sinon, c'est toujours contre. Tu as droit à de moins en moins de trucs à faire. Et je trouve ça un peu dommage. Par contre, pour les maires, il y a un truc qui est important. Alors, je l'ai entendu encore l'autre jour, c'était de la part d'un conseiller municipal qui disait, une association écologiste, on disait, bah voilà, vous enlevez des haies, vous enlevez des machins. Mais venez dans les conseils municipaux, venez participer. Alors, on n'a pas le droit de parler, mais quand il y a des citoyens qui viennent et qui assistent aux conseils municipaux, ça change tout. Les gens, ils sentent un petit peu plus responsabilisés. Ils font gaffe à ce qu'ils racontent, les petits arrangements, ça passe pas. Et donc, c'est très important aussi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens comme vous qui, hors conseil municipal, assistent au conseil. C'est pas facile. Hein. Moi, j'essaye en bureau, je vais te dire, les affichages, je ne les vois jamais. Et puis après, on me dit, ah ben, c'est facile, c'était avant-hier. Mais ça, il faut le faire. Je pense que c'est un premier degré pour se réapproprier un petit peu la démocratie, puis avoir son mot à dire sur les décisions au niveau de la municipalité. Voilà.
Il y a Diane et après, monsieur.
Je pense aussi qu'il faut se replacer aussi dans la logique du pouvoir historiquement. La logique du pouvoir, historiquement, c'est diviser pour mieux régner. Et donc, du coup, à un moment donné, un régime pour asseoir son pouvoir, il trouve un bouc émissaire. Et ça, dans toutes les périodes historiques et dans tous les pays, on trouve le bouc émissaire. Et en fait, la loi Loppsi 2, elle a fait suite aussi à tous les scandales vis-à-vis des Roms. Donc ça, faut pas l'oublier aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça, c'est aussi dans une logique de stigmatisation de certaines populations. Et pourquoi de stigmatisation de certaines populations? C'est pour mieux nous faire oublier les pilules qui sont en train de nous faire passer par ailleurs. Donc on stigmatise les pauvres, on stigmatise les parasites, on stigmatise les Roms, on stigmatise les étrangers. Ben, on est dans cette logique-là. Voilà, les délinquants juifs, les immigrés, et puis j'en passe et d'autres. Voilà, et au final, on stigmatise une certaine classe sociale aussi, parce que quand on dit les banlieues, machin, on stigmatise une catégorie de la population. Donc, on trouve des boucs émissaires. On trouve des boucs émissaires pour mieux faire oublier toute cette classe de riches qui s'engraisse et qui continue à s'engraisser de plus belle, quoi. Et de faire oublier le capitalisme et comment le capitalisme se développe. C'est ça aussi le fond du problème. C'est pas tant que les militantistes, parce qu'il faut pas croire. Enfin, je veux dire, on a beau être des militants depuis des années, et pour certains depuis 40 ans ou 50 ans, pour l'instant, on n'a pas... Enfin, je veux dire, on reste une force pas encore super forte, qui permet, comme en Égypte ou ailleurs, de faire un vrai contre-pouvoir. Donc, ceux qui stigmatisent, c'est pas tant nous que justement ceux qui sont les plus vulnérables, quoi. C'est-à-dire les Roms, les étrangers et la classe prolétaire et le mouvement du prolétariat, quoi. Enfin, je pense que là-dessus, il faut être aussi humble par rapport à ça, quoi. Parce que quand on dit habitat choisi, quand on parle de nous, enfin, je veux dire, et moi la première, on a aussi un certain capital social et culturel de la débrouille du réseau, qui fait que nous aussi, on s'en sort et que le choisi, il est vraiment là. Mais pour plein de gens, le contrat aidé, ma mère, elle rêve que de ça, hein, le contrat aidé. Moi, c'est une magouille. Donc je pense qu'il faut bien savoir replacer les choses par rapport à ça. Et que moi, ma liberté, tant que c'est... Je me considère encore assez libre parce que justement je navigue dans cette débrouille, je me sers de mon capital social et culturel, mais il y a plein, le nombre de gens en France et ailleurs qui n'ont pas ça et qui eux sont stigmatisés, c'est ça. Et la loi Loppsi 2 pour moi elle est là-dedans, il ne faut pas l'oublier. Et la solidarité ça veut dire ça aussi, quand on dit convergence des luttes dans le collectif, c'est qu'aussi on sera en convergence des luttes par rapport aux Roms, par rapport aux sans-papiers, par rapport au contrôle aux faciès, par rapport à ce genre de choses, quoi. Enfin, je tenais à le dire parce que faut pas qu'on l'oublie ça.
Très bien.
Oui, il était question tout à l'heure de se faire appuyer par les maires éventuellement dans ce genre de démarche là. J'ai pu voir il y a peu de temps le peu de considération que les maires peuvent avoir, puisque lors d'une manifestation, j'ai pu voir les policiers municipaux, nationaux, pardon, gazer des maires, des élus, lors d'une manifestation. Donc ils ne sont guère plus, j'ai l'impression qu'un maire n'est guère plus qu'un citoyen, point barre. Il avait pourtant la banderole, il était en tête du cortège, il était à la tête de ses administrés, mais il s'est fait gazer quand même.
C'était le sous-préfet qui avait sans doute donné l'ordre d'ailleurs.
Non, mais disons qu'après, c'est vrai que chaque élu, chaque maire, il va être amené, il me semble. Moi, j'ai pas la télé, alors je suis au courant de tout, mais j'écoute la radio. Mais avec tout ce qui se passe, ils vont être amenés quand même à choisir leur camp, à se positionner d'un côté ou de l'autre. Mais de plus en plus, il y en a qui vont être obligés de sortir du lot et de se mettre en avant. Hein. Donc, ceux qui auront décidé d'incarner. Le rôle de maire par rapport à des vrais choix.
Oui, je ne peux rien.
Oui, moi je voulais dire, le système libéral capitaliste a besoin d'individus qui consomment et surtout qui ne réfléchissent pas. Et donc on voit, quand on regarde un peu l'histoire des pays capitalistes, on peut voir ça aux États-Unis en particulier, mais on peut voir aussi d'autres pays sur ce modèle-là. Les capitalistes vont toujours essayer de brider les libertés individuelles pour pouvoir avoir des individus qui consomment, qui ne réfléchissent pas et qui vont dans le sens où on veut les amener, quoi. Et c'est pour ça que comme on est dans ce système-là et qu'il faut à chaque fois qu'on veille, qu'on soit très attentif à nos libertés. Et moi, je ne suis pas là parce que j'ai envie de me construire ma yourte ou d'avoir mon jardin, parce que ça ne m'intéresse pas. En tout cas, dès qu'on touchera à une once de ma liberté, je réagirai tout de suite et j'essaierai de joindre les personnes qui se mobilisent.
Mais disons, derrière, c'est...
Attends, excuse-moi, mais il y a une personne qui a levé la main juste après. Oui, et après, derrière.
Mademoiselle. Je voudrais revenir, je voulais voir avec elle sur le cadre de la loi. Je pensais qu'au départ, en fait, la loi, c'est un cadre collectif de masse, avec tout ce que ça a de péjoratif d'être de masse. En attendant, moi, je suis super contente de faire partie de la masse avec mon individualité et ma différence. Mais je trouve que le peuple, nos racines de République française, le cliché de la République française et de la Révolution, ça a permis de mettre des lois en place. Donc ces lois, elles servent à nous protéger aussi d'un côté. Et là... J'aimerais bien si on pouvait faire une petite parenthèse justement sur qu'est-ce qu'elle englobe la loi Loppsi en dehors de cette histoire d'habitat précaire et léger, parce qu'on est tous mis, on est en train de nous diviser pour mieux régner. Est-ce que là on n'est pas en train de prendre des chemins de traverse plutôt qu'élargir le chemin, quoi. Voilà. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de savoir qui est stigmatisé par cette loi aussi, que ce soit justement l'adolescent de 13 ans qui n'a pas le droit de sortir. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une parenthèse? Parce que c'est une curiosité que j'ai aussi à ce sujet-là, vu qu'il y a des gens qui ont l'air un peu calés. Voilà.
C'est une question, mais voilà. Au tout début, j'ai cité les trois éléments, je ne sais pas si tu les as entendus.
Ouais,
voilà. Et du coup, j'invitais vraiment, parce qu'à un moment donné, il faut se prendre par la main, quoi. D'aller voir sur le site antilopsie.net, machin. Et là...